Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Rondro Tshizaza. Bonjour Rondro.
Bonjour Catherine, bonjour à tous nos auditeurs.
Le thème de notre émission est actuellement donc comment la Bible nous parle-t-elle de la prière? Et nous essayons de cerner dans les textes bibliques les différentes façons de prier en nous approchant au plus près de la définition du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que la prière est une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Nous parcourons donc la Bible en cherchant des moments où des personnages bibliques ont avec Dieu cette relation vivante et personnelle. Et en essayant en même temps d'y trouver de quoi enrichir notre propre manière de prier. Lors de la précédente émission, nous étions dans le chapitre 4 du deuxième livre des Rois, où nous lisions la vie du prophète Élisée, le successeur du grand prophète Élie. Et nous avons vu à quel point Élisée avait hérité de la puissance spirituelle d'Élie, ce qui lui permettait de faire de grands miracles. Et dans la suite du texte, nous voyons qu'Élisée ne sera pas avare d'autres miracles. Il va assainir un potage empoisonné, faire surnager un fer de hache tombé à l'eau par accident, mais surtout, plus sérieusement, effectuer une multiplication des pains et guérir un lépreux, donc comme Jésus plus tard le fera aussi. Et ce n'est certainement pas par hasard que Jésus fera les mêmes miracles qu'Élisée, mais bien pour affirmer une continuité avec les grands prophètes d'Israël.
C'est sûr qu'il y a ici des ressemblances avec les évangiles. Par exemple, après les multiplications des pains, on retrouve une conclusion similaire. On mangera et il y aura des restes, et c'est pour montrer la surabondance de la puissance de Dieu. On reconnaît bien aussi les purifications des lépreux que Jésus accomplira justement pour manifester la puissance divine. Mais ce qui est étonnant dans tous ces épisodes de miracles d'Élisée, c'est qu'on nous montre ses actions qu'il fait selon une intention de Dieu, mais sans aucune prière de sa part. C'est comme si Élisée agissait encore grâce à la relation d'Élie avec Dieu dont il a hérité, mais que lui-même n'est pas directement impliqué. Il faut attendre plus loin, un épisode de guerre d'Israël avec les Araméens, pour voir Élisée invoquer Dieu très brièvement pour aider le roi d'Israël. Nous lisons au chapitre 6, verset 17, Élisée pria en ces termes, « Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. » Puis, pour affaiblir l'ennemi au verset 18, Élisée pria le Seigneur en ces termes, « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et Élisée va ensuite profiter de l'aveuglement des ennemis pour les conduire au milieu de la capitale d'Israël, Samarie. Et là, nous lisons la troisième étape de la prière, au verset 20, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes et qu'ils voient. »
Oui, c'est quand même la mise en œuvre d'une tactique militaire non violente et surtout pleine d'humour, parce qu'on voit l'effarement des ennemis qui vont se retrouver cernés par Israël au beau milieu de la ville de Samarie, sans comprendre comment ils sont arrivés là. Et c'est alors la plus jolie fin de guerre qu'on puisse imaginer, parce qu'Élisée dit au roi de donner à manger et à boire aux ennemis, ce qu'il fait, un banquet, puis de les laisser ensuite rentrer chez eux. Et c'est ainsi que la paix va revenir en Israël. Si toutes les guerres pouvaient se terminer comme ça, moi je serais heureuse. N'est-ce la suite pas, du oui. texte nous montre d'ailleurs que même le roi des Araméens viendra ensuite consulter le prophète Élisée, dont la réputation s'était solidement établie dans la région. Mais Élisée servait surtout de conseiller au roi d'Israël, bien sûr. Au chapitre 9, donc du deuxième livre des rois, nous le voyons qui envoie un de ses disciples pour oindre un nouveau roi, Jéhu, pour mettre fin au règne de l'horrible roi Achab et de sa femme Jézabel. Ce que fera donc ce nouveau roi avec énergie, efficacité et beaucoup de violence, puisqu'il fera exterminer toute la famille, tous les familiers, les prêtres et même au passage un roi de Juda qui se trouvait là. La non-violence d'Élisée n'a pas fonctionné bien longtemps. Mais il faut dire que ce massacre n'était en fait que l'accomplissement d'une ancienne prophétie du prophète Élie. Le verset 17 du chapitre 10 nous dit d'ailleurs « Il les extermina tous selon la parole que le Seigneur avait dite à Élie. »
Et puis finalement, il sera même plus que violent puisque il va utiliser la ruse pour éradiquer tout le culte du dieu Baal. Et pour ça, il fera célébrer un gigantesque culte au dieu Baal en y conviant tous ses prêtres et tous ses adeptes, qu'il fait ensuite soigneusement massacrer jusqu'au dernier, puis il détruit leur temple avec ses stèles. Et il ne resta plus aucune trace du culte idolâtre en Israël. Mais remarquons que Élisée n'intervient pas du tout dans cet épisode. Et nous lisons au verset 30 du chapitre 10 du deuxième livre des Rois. Le Seigneur dit à Jéhu, « Puisque tu as bien agi, faisant ce qui est droit à mes yeux, et que tu as traité la maison d'Akab exactement comme je le voulais, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, s'assieront sur le trône d'Israël. » Donc voilà, Dieu s'adresse donc directement à Jéhu, au roi qu'il a choisi lui-même, et à qui l'onction a été donnée par un disciple d'Élisée. Là, on voit comme une sorte de désengagement du prophète Élisée dans la royauté de Jéhu. Et alors, nous ne devons pas nous étonner quand nous lisons au verset suivant, « Mais Jéhu n'eut pas soin de marcher de tout son cœur selon la loi du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Et donc, en fait, la fidélité de Jéhu au Seigneur fut très relative. Et la conséquence, c'est que Israël a eu de lourdes pertes, des pertes de territoire dans des guerres de proximité.
Oui, ça semble confirmer notre impression que dans les textes où on trouve peu de prières ou peu de relations personnelles avec le Seigneur Dieu d'Israël, c'est en général dans des situations qui tournent mal, comme si on voulait montrer que sans l'écoute des paroles de Dieu et l'obéissance fidèle à ses injonctions, le peuple ne peut que faire des erreurs et aller vers des malheurs. On pourrait même penser que le chapitre 11 tout entier qui vient ensuite vient là comme pour prouver que rien de bon ne pouvait sortir de l'idolâtrie d'Israël. Ce chapitre, c'est en fait l'histoire d'Athalie, fille d'un roi d'Israël. Donc, je rappelle qu'il s'agit du nord du pays, formé des 10 tribus qui se sont séparées du temple de Jérusalem. Mais Athalie a épousé le roi Joram de Juda, donc au sud. Et à la mort de celui-ci, elle prend le pouvoir pour 6 années. Mais en faisant tuer tous les descendants légitimes, tous sauf un, qu'un prêtre réussira à cacher. Et pendant qu'Athalie essaie d'imposer partout le culte du dieu Baal, même à Jérusalem, le peuple de Juda réussit à faire reconnaître la royauté du petit survivant légitime, Joas. Et alors, bon, ça finit en mettant à mort la cruelle Athalie. On connaît bien cette histoire parce qu'elle a été mise en tragédie par Racine. Donc, je pense que c'est là qu'il a pris toutes ses sources. Après ce drame, en tout cas, Joas fut un bon roi pour Juda. Le chapitre 11 du deuxième livre des Rois nous dit au verset 3, « Joas fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur pendant toute sa vie. » Et son règne dura 40 ans. Mais pourtant, l'idolâtrie ne disparaît pas encore totalement du pays.
Radio Grand Ciel.
Vous écoutez l'émission La Bible en question. Nous parlons de la prière dans la Bible et nous sommes maintenant au chapitre 13 du deuxième livre des rois, où nous voyons s'allonger la liste des rois du Nord, donc d'Israël, tous aussi mauvais les uns que les autres. Il faut rappeler que ce sont des rois opposés au temple de Jérusalem et tentés donc de pratiquer le culte du dieu Baal. Voici par exemple ce que dit le verset 2 du chapitre 13 à propos du roi Joachaz. Il devint roi sur Israël à Samarie pour 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imita les péchés que Jéroboam, fils de Nevat, avait fait commettre à Israël. Il ne s'en écarta pas. Et la suite du texte nous dit exactement la même chose de son fils Joas aussi, ce nom, ils ont tous le même nom, c'est un brouille un peu fort, qui lui succédera. C'est dans cette atmosphère donc pénible que le prophète Élisée va tomber malade. Le verset 14 nous dit « de la maladie dont il devait mourir ». Et voilà, il meurt en laissant quand même au roi d'Israël quelques oracles concernant l'avenir de ses guerres contre les ennemis araméens. On reconnaît aussi à Élisée un miracle post-mortem. Dans l'urgence d'une bataille, un homme fut enseveli dans le même tombeau qu'Élisée. Et on lit au verset 21, « L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Voilà, » les ossements d'Élisée ont donc gardé la puissance du prophète, même après sa mort.
Oui, mais nous n'avons toujours pas de trace d'une relation personnelle au Dieu d'Israël. Aucune prière n'accompagne la mort du prophète Élisée, comme s'il n'y avait rien en lui d'autre que la puissance héritée d'Élie. D'ailleurs, la suite du chapitre 13 nous montre une intervention de Dieu pour sauver Israël d'une nouvelle guerre contre les Araméens. Et nous pouvons lire au verset 23, « Mais le Seigneur fit grâce aux fils d'Israël et se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, il ne les avait pas rejetés loin de sa présence. » Donc ici, il n'y a aucune évocation d'Élisée, mais un rappel de l'alliance originelle. Et pendant ce temps-là, en Juda, au sud, se succèdent deux bons rois, Amasias et Azarias, dont on nous dit qu'ils firent ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et cependant, au chapitre 15, verset 4, nous lisons « Les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple continuait à offrir des sacrifices et à brûler de l'encens sur les hauts lieux. » Le Seigneur frappa le roi et il fut lépreux. Et le problème central de tout l'Ancien Testament n'est donc toujours pas réglé. La relation avec le Dieu unique est toujours concurrencée par les cultes idolâtres, même autour de Jérusalem. Et il faut que la maladie du roi en soit la conséquence. Il semble que la maladie du roi en soit la conséquence.
Oui, parce qu'on est quand même dans une théologie toujours de la rétribution hein, dans cette époque-là. Mm. C'est-à-dire, quand on obéit à Dieu, on a des bénédictions, mais si on lui désobéit, on a les malédictions, donc la série des malheurs. Et c'est ce qui est en train de se passer au nord du pays, où les rois continuent de se succéder à toute vitesse. Alors là, c'est conspiration, assassinat à tour de bras, et sans changer pourtant les mauvaises habitudes. Et on voit alors que les Assyriens, encore plus au nord, vont tenter d'envahir le pays. Alors, si le roi Menahem, celui-là, arrive à convaincre les Assyriens de repartir, moyennant un tribut de 1000 talents d'argent, je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas regardé, tiens. Ça doit être beaucoup quand même, parce qu'il est obligé de lever des impôts. Oui. Ensuite, le roi Pekal, lui, n'arrivera pas à résister au roi d'Assyrie, qui s'appelle Tiglath-Pileser, et qui a conquis une grande partie des territoires du nord du pays, et en déporta les habitants, déjà, en Assyrie. La situation va s'envenimer au point que nous voyons au chapitre 16 que même au sud, un nouveau roi de Juda, Achaz, devient lui aussi idolâtre, au point de sacrifier son fils.
Eh oui.
Je vous lis donc chapitre 16, verset 3-4. Il suivit le chemin des rois d'Israël et même fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il offrit des sacrifices et brûla de l'encens sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Et c'est la formule type pour les rites idolâtres. Devant une telle trahison de l'Alliance, donc, il semble évidemment inévitable que les problèmes s'accumulent pour Juda, au sud autant que pour Israël au nord. Et effectivement, une nouvelle méchante guerre se prépare.
Oui, encore une. On dirait qu'ils passaient leur vie à se battre à cette époque, finalement. Et toujours aucun signe de prière vers le Dieu de l'Alliance. Ainsi, nous arrivons au chapitre 17, où nous voyons les Assyriens attaquer de nouveau le royaume du Nord, et cette fois-ci de manière dramatique. On lit au verset 5, « Le roi d'Assyrie monta contre tout le pays, il monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du roi Osée, le roi d'Assyrie, s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. » Voilà donc la fin du royaume du Nord et la déportation massive des habitants en Assyrie. Et ensuite, tout au long du chapitre 17, nous avons une longue explication qui commence au verset 7. « Cela est arrivé parce que les fils d'Israël ont péché contre le Seigneur, leur Dieu, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. » Alors, nous pouvons être certains qu'il y a ici une rétribution, comme on a dit tout à l'heure. Et le chapitre 17 détaille ensuite longuement tous les péchés d'Israël et même de Juda, expliquant que le Seigneur les a éloignés loin de lui parce qu'ils n'ont pas respecté ses lois et qu'ils n'ont pas écouté les prophètes que le Seigneur leur avait envoyés. Il ne s'agissait donc pas de prier n'importe quel dieu, mais plutôt leur Dieu, le Dieu unique qui les avait choisis pour devenir son peuple.
Oui, mais je trouve que ça pose une sérieuse question même pour nous aujourd'hui. Si nous revenons à la définition de la prière, toujours du catéchisme de l'Église catholique, une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant est vrai. Il s'agit donc bien pour nous aussi de prier le vrai Dieu et non pas de prier n'importe quel Dieu qui pourrait n'être qu'une illusion ou une idole. Mais avons-nous des moyens de vérifier que notre prière n'est pas mal orientée ? C'est pas, en tout cas, la Bible nous renvoie à une vérification par la mise en pratique des commandements. Et d'ailleurs, Jésus fera la même chose. Mais ici, curieusement, la fin du chapitre 17 du deuxième livre des Rois ajoute un paramètre à cette réflexion sur le vrai Dieu. Assez étonnant. Le roi d'Assyrie fit venir aussi des gens des 5 nations vaincues ailleurs et les établit en Israël dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël. Et donc il y a un problème, je vous lis versets 25-26. Or, au début de leur installation en ce lieu, comme ils ne craignaient pas le Seigneur envoya contre eux des lions qui les feront mourir, car ils ne connaissent pas la façon d'honorer le Dieu du pays. Ils firent donc d'urgence revenir un prêtre d'Israël pour instruire ses habitants de l'extérieur de la bonne manière de prier le Dieu d'Israël. Mais la question est-ce que le vrai Dieu peut être lié à un territoire particulier ?
RGC.
Vous écoutez la Bible en question à propos de la prière dans la Bible. Et nous venons de voir au chapitre 17 du deuxième livre des Rois que l'on pensait que le Dieu d'Israël était lié au territoire d'Israël. D'où aussi la souffrance qui était infligée aux déportés, qui étaient forcément envoyés sur le territoire d'un autre Dieu. Il faudra encore un peu de temps avant qu'on arrive à concevoir l'universalité d'un Dieu unique. Mais on peut déjà remarquer que l'exil a contribué à faire réfléchir à la possibilité de prier Dieu n'importe où dans le monde, même en terre hostile. C'est finalement le côté positif de la déportation. Ça confirme le proverbe « quelque chose malheur est bon ». En tout cas, à la fin du chapitre 17, nous voyons qu'une grande partie du peuple d'Israël a été déportée. Mais il en reste quand même quelques-uns dans le pays, probablement juste les travailleurs indispensables, et qu'ils vont être mélangés donc à d'autres peuples importés par les Assyriens. Et ça va produire un mélange de cultures et une forme de syncrétisme religieux, ce qui donnera ensuite aux Samaritains leur horrible réputation d'hérétiques infréquentables.
Mais si au nord du pays, le royaume d'Israël disparaît, occupé par les Assyriens, le royaume de Juda au sud existe toujours, avec un roi qui est Ézéchias. Et au chapitre 18, on nous dit beaucoup de bien de ce roi. Nous lisons au verset 3 à 7. « Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, exactement comme David son père. C'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau sacré. Ézéchias mit sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Après lui, il n'y a pas eu de roi comme lui parmi tous les rois de Juda. Il n'y en avait pas eu de semblable non plus parmi ceux qui l'avaient précédé. Il demeura attaché au Seigneur sans se détourner de lui. Il garda les commandements que le Seigneur avait prescrits à Moïse. Le Seigneur était avec lui, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. » Ce qui bien sûr n'empêcha pas les Assyriens de vouloir conquérir le royaume de Juda, mais c'est là que nous voyons apparaître le grand prophète Isaïe, à qui Ézéchias va demander conseil, et il va lui demander aussi de faire une prière au Seigneur. Et nous lisons cette prière au chapitre 18, verset 4, la demande d'Ézéchias, « Fais monter vers lui une prière en faveur du reste qui subsiste. » Et alors, une réponse du Seigneur va venir rassurer le roi. La réponse, la voici, « Ne crains pas, voici que sous mon inspiration, le roi d'Assyrie retournera dans son pays. »
Oui, ce qu'il fait, mais c'est un petit moment de répit, parce qu'en fait, le roi d'Assyrie va bientôt envoyer une lettre de menace au roi Ézéchias. Et nous avons là alors un extraordinaire moment de prière. Nous devons le lire absolument. Chapitre 19, versets 14 à 16. Ézéchias prit la lettre des mains des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias déroula la lettre devant le Seigneur et pria devant le Seigneur en disant: « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tends l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et regarde. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé insulter le Dieu vivant. » Et un peu plus loin, donc, il expose toute la situation. Ézéchias termine sa prière en disant: « Mais toi, Seigneur notre Dieu, sauve-nous des mains de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre connaîtront que seul, ô Seigneur, tu es Dieu. » Donc une belle confession de foi de ce roi Ézéchias de Juda. Mais Dieu lui répondra en fait par la bouche du prophète Isaïe. Nous lisons au chapitre 19, verset 20. Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur prononce contre lui. Que je ne vous lis pas, parce qu'ensuite c'est une très très longue prophétie qui se présente sous forme d'un poème, comme presque toujours les paroles d'Isaïe qu'on peut voir dans le livre d'Isaïe.
Oui, c'est très long en effet, mais très beau. Donc, il faudrait au moins en lire la fin, les versets 32 à 34. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne l'attaquera pas avec des boucliers, il n'élèvera pas contre elle des remblais. Le chemin qu'il a pris, il le reprendra. Dans cette ville, il n'entrera pas, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Et donc, comme l'annonce Isaïe, la prière du roi Ézéchias a été exaucée. Et la suite du texte nous dit que Dieu a envoyé un ange pour tuer tous les soldats assyriens pendant leur sommeil. Et alors Sennachérib rentra chez lui, où finalement il sera mis à mort par les siens. Et Jérusalem sera sauvée. Et le prophète Isaïe interviendra encore dans la vie du roi Ézéchias quand il va tomber malade. Et en fait, Isaïe va lui annoncer sa mort prochaine. Mais de nouveau, Ézéchias va prier. Et nous lisons au chapitre 20, verset 3. « Ah Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et la réponse du Seigneur viendra encore par Isaïe au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajoute 15 années à tes jours.
Oui, il est bien exaucé sa prière 15 ans de plus. Et pourtant, à cause de ses années supplémentaires de vie, il va commettre une terrible boulette, comme on dit, une grosse erreur qui sera fatale au royaume de Juda. Ouais. Il va accueillir un ambassadeur de Babylone avec faste et enthousiasme, allant jusqu'à lui faire visiter tous ses trésors, tous ses biens et toutes ses richesses. C'était hélas donner de mauvaises idées aux Babyloniens. Et le prophète Isaïe, consterné, va lui faire cette terrible prophétie au verset 17-18. « Des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. On emmènera plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi, et que tu auras engendrés, ils seront faits eunuques dans le palais de Babylone. » Heureusement pour lui, Ézéchias ne crut rien de ce que lui annonçait Isaïe, ce qui lui permit de mourir en paix. Et pourtant, tout était vrai. La fin du royaume de Juda et l'exil à Babylone étaient proches. Et il est maintenant temps de nous quitter et nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir à tous.